Il va être abordé maintenant la troisième partie sur le thème une doctrine d'éveil, avec un premier exposé, l'évolution du penseur et l'accompagnement spirituel de l'humanité.
Amis, tout a été dit en fait pendant ces exposés depuis 14 ans. Donc on voit que le mouvement théosophique dans lequel s'inscrit toutes ces pensées n'est pas simplement une nouveauté, c'est un renouveau, c'est une dynamique, on va dire, spirituelle, dans un courant spirituel, qui a été impulsée, dont l'impulsion a été activée d'une certaine façon et préparée par toutes ces personnes dont on nous a parlé, pour préparer en fait un éveil, un courant d'une prise de conscience, un courant spirituel pour contrecarrer en fait la montée du matérialisme avec la montée technologique à grands pas, l'industrialisation à grands pas, un bien-être et un confort pour une partie de l'humanité aussi, mais qui reste très matérialiste. Et puis, le dogmatisme religieux qui était en train de baisser, avec en plus une science qui allait progresser très vite. Donc, on voit bien que ces éléments-là, Mme Blavatsky dit que la doctrine secrète a été donnée, le reste va suivre, il y avait déjà des volumes, comme on nous l'a dit au début, en préparation, mais tout dépend du degré d'assimilation, d'écoute, et s'il y a un appel dans le collectif de l'humanité pour en savoir un peu plus. Alors, l'accompagnement spirituel du penseur, c'est quoi? Et en quoi cet accompagnement, l'évolution spirituelle du penseur, et en quoi l'accompagnement spirituel de l'humanité se fait avec ce genre d'idées qui a été exposée. Premièrement, cela fait prendre conscience que l'être humain est le résultat de trois lignes d'évolution. On a bien compris, on essaye de se dire, mais que vient faire l'astral, que vient faire le physique, que vient faire le psychisme, l'intellect, on est quand même spirituel. Puis finalement, est-ce qu'on est là séparés, comment est-ce qu'on met tout ça ensemble? Et pourtant, on sent en nous tous ces états de conscience, tous ces aspects, les émotions, les idées, les sentiments, et on voit bien que quand on dort, on est sur d'autres états de conscience. Et puis on sent bien le côté psychique qui est différent de ces élans spirituels. Eh bien, nous sommes, nous, le résultat de ces lignes d'évolution. L'être humain est le macrocosme, et le microcosme, pardon, de ce macrocosme. Donc on est lié, nous sommes nous-mêmes, finalement, un aspect de ces grandes hiérarchies. Nous sommes nous-mêmes ces grandes hiérarchies qui sont venues et apporter cet éveil dont on nous a parlé. Nous sommes nous-mêmes, quelque part, ces intelligences qui sont là, qui ont élaboré les formes. Et justement, l'être humain, il a cette particularité, c'est que ce penseur doit asseoir cette unité et maîtriser ces différents plans de manière à vraiment incarner le divin d'une manière soit consciente. Et ce qui est intéressant quand on lit tout cela, effectivement, on a lu juste en la cosmogénèse en un quart d'heure, comme il a été dit avec humour, mais cela nous montre que finalement tout cela, c'est une organisation cohérente, que les choses ne se sont pas faites au hasard. Et aujourd'hui, avec la technologie et la physique qui avance, bon, même si elle reste très matérialiste, il y a quand même une prise de conscience de quelque chose qui dépasse vraiment ce qui est visible, ce qui est purement matériel, parce qu'on parle d'énergie, on parle de masse, etc. Ça va ouvrir des portes à un autre type de prise de conscience. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que parmi les étudiants qui sont là, qui travaillent sur ces sujets, eh bien, il y a des scientifiques, il y a des philosophes, il y a des gens de tous les bords. Donc, on voit bien que la théosophie répond à ces idées et n'exclut ni la philosophie ni la religion. Donc, on verra plus tard dans l'exposé qui va suivre tous les aspects pour la religion. Ce qui est intéressant aussi dans tout cela, Madame Blavatsky parle de dynamique occulte. Elle parle de karma, cette idée que nous connaissons en Orient depuis des siècles, des millénaires, et qui s'apparente à la fatalité ou à cette loi des faits qui est là parce que nous avons semé des causes, alors c'est une punition. Enfin, elle donne, en fait, cette dynamique occulte, elle parle de occult dynamics. C'est vraiment une idée qui est très très forte, qui montre qu'il y a une énergie dans le monde et que la spiritualité, le progrès spirituel, c'est ce qui est latent et qui est prépondérant. Elle dit supersede, c'est-à-dire c'est ce qui va vraiment être la force motrice de toute l'évolution. Donc nous disons cela parce que tout de suite, on voit que karma va prendre bien sûr des effets, une dynamique qui se manifeste sur différents plans, mais le côté, les causes spirituelles, ces motivations, finalement, c'est ce qui va donner l'impulsion et guider l'évolution. Donc ça, c'est aussi une idée extrêmement importante et va donner aussi, quand on voit toute cette constitution, on a vu que la façon dont on étudie ces ouvrages, c'est vraiment pour éveiller l'intuition, ce penseur intelligent qui réfléchit, qui pose des questions, qui raisonne, qui a besoin de réponses, mais des réponses qui vont être durables parce que cela va faire éveiller ce quelque chose qui est à l'intérieur, cette intuition spirituelle qui va prendre connaissance directement du tableau et va comprendre toutes les causes et les effets et va s'imprégner de la cohérence globale. Et cette intuition, c'est vraiment quelque chose de spirituel, a besoin d'une faculté aussi de raisonnement du penseur élevé, de cette intelligence, pour pouvoir vraiment donner cette pleine, on va dire, épanouissement de ces deux facultés dans la vie de tous les jours, parce que les grandes idées spirituelles vont venir apporter les éléments nécessaires à la compréhension. Donc il ne s'agira plus d'être bon pour être bon, de ne pas faire les choses mal parce qu'on va être puni, d'avoir peur de si ou d'attendre une récompense. Non, on va le faire parce que c'est vraiment quelque chose qui va s'imposer de l'intérieur. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va nous permettre de monter ou de dépasser cette dualité du bien et du mal. Et puis, il y a une idée aussi qui nous semble très intéressante pour l'accompagnement donc de l'humanité, et ça c'est fondamental pour le penseur aussi, c'est que ça redonne à l'humain la dignité d'être un véritable être spirituel. Parce que aujourd'hui, quand on voit les jeunes, certains se disent « oui, enfin bon, d'accord, la technologie, c'est ce qui va compter ». Et puis d'autres jeunes recherchent autre chose. Mais quand on regarde vraiment l'histoire, eh bien on a l'impression que bon, finalement, dans le passé, c'était l'homme des cavernes. Aujourd'hui, on en est quand même très loin, on a fait de grandes avancées. Non, au début de l'humanité, il y avait dans différentes parties du monde des degrés de présence qui correspondent à différentes formes d'évolution et différents degrés d'évolution. Il y avait des êtres spirituels qui étaient là, qui se sont incarnés, on l'a entendu, pour aider l'humanité, pour l'accompagner, pour la guider, non seulement avec ses idées, on va dire, qui ont été imprimées en lettres de feu, mais aussi en l'accompagnant avec intelligence. On parle de l'agriculture, on parle de médecine, On parle de l'architecture, etc., etc. On parle de la philosophie, des mathématiques, toutes ces matières, c'est-à-dire d'une manière structurée, qui accompagne l'individu, l'éduque finalement à se prendre en charge. Et bien tout cela ont été donnés, on va dire, par ces guides. Donner, pas gratuitement, pas en disant suivez-moi, mais prenez en charge, apprenez, et puis reprenez vos outils et continuez. Donc c'est un peu dans ce sens-là, des guides comme un peu des parents, mais qui au bout d'un moment vont lâcher prise, l'adulte va vivre sa propre vie, et puis après le cycle de vie continue ainsi. Donc c'est dans ce sens-là, donc redonner à l'humanité cette dignité, lui rappeler ces choses qui sont finalement innées, qui sont inhérentes. Et donc, il y a une autre idée, il me semble, mais qui ont été, ces idées-là ont déjà été évoquées, c'est de montrer que finalement, à travers ces symboles, on nous a parlé d'universel, de symboles et de mythes. Eh bien, Mme Blavatsky, vraiment avec beaucoup de, on va dire, d'aisance, mais nous donnant pas complètement les explications, elle va dire oui, le mythe de Prométhée, voilà ce que ça symbolise, c'est vraiment cette éveil de l'intelligence, puisque le symbole du feu qui a été volé au paradis, voilà ce que ça peut apporter comme idée. Donc elle va donner des petites clés comme ça d'interprétation, mais après elle va nous parler d'une autre référence, même si elle ne dit pas que c'est exactement le même, mais pour nous faire réfléchir, elle va parler de Vishvakarman. Alors, qui est Vishvakarman? Chacun peut aller, bien sûr, regarder et essayer de trouver des idées, mais mine de rien, c'est aussi celui qui a forgé, qui a construit des formes dans la mythologie hindoue, mais son histoire n'est pas identique à celui de Prométhée. Mais ça va apporter une autre idée. Sa fille s'appelle Sanjna, c'est l'intuition spirituelle. La fille va épouser, tombe amoureuse et inversement, quoi. Le soleil va vouloir épouser cette jeune femme. Et donc on voit bien que il y a cette Sanjna qui s'appelle, donc qui signifie intuition spirituelle, qui épouse le soleil. Donc il y a dans ce mythe des éléments qui vont nous permettre de réfléchir, d'approfondir avec d'autres références la mythologie grecque, pour éviter de tomber dans le panneau, de dire, eh bien, Prométhée, c'est le guide, ça y est, on ne va pas avoir un dieu personnel, mais bon, on va quand même considérer que Prométhée, c'est notre Dieu. Attention, il y a des éléments probablement qui sont beaucoup plus mystérieux, beaucoup plus mystiques, et à chacun de réfléchir. Donc elle fait cela pendant toute la, on va dire, dans tout son ouvrage, et c'est assez extraordinaire de voir cette, on va dire, érudition. Mais elle ne le fait pas pour l'érudition, mais elle le fait pour montrer que derrière tout cela, dans toute l'humanité, on a bénéficié d'un courant ésotérique, d'une connaissance qui dépasse finalement le temps et l'espace. Donc les mythologies, certes, se ressemblent, il y a énormément de choses, il faut des clés d'interprétation, et c'est à chacun de réfléchir avec l'aide qu'il peut trouver. Donc ça, c'est vraiment, ça fait partie de ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est pour stimuler cette réflexion. Il nous semble que lorsqu'on a dit que c'était indispensable d'enseigner les mythes aux jeunes, dans les écoles, effectivement, d'ailleurs Jung en parle, il parle de ces archétypes. Ce sont des choses que nous portons en nous-mêmes et qui font appel à cette mémoire réminiscente qui est d'ordre spirituel, puisque nous avons compris, nous sommes des âmes qui s'incarnons de vie en vie et qui portons toute cette connaissance comme une dynamique, un potentiel en nous. Et donc, il nous semble que tout cela fait partie des trésors cachés ou de l'accompagnement spirituel de l'humanité. Une autre idée, peut-être, mais on nous en parlera certainement et on aura l'occasion, sinon pendant les questions et les réponses, de revenir là-dessus. Madame Blavatsky parle de l'ensemble des confréries des maîtres, qu'ils se connaissent ou pas de telle époque ou de telle époque. En fait, ils se connaissent dans le sens d'un symbole et d'une grande confrérie qui est au-delà du temps et de l'espace. Ça aussi, c'est une idée intéressante parce que le révélateur de telle religion et le révélateur de telle autre religion ne sont pas des opposants, mais au contraire, il y a cette confrérie. Et elle parle de au-dessus de toutes ces hiérarchies, il y a un symbole. Elle parle d'un être, mais pas en tant qu'être humain, mais d'un être being, qui est merveilleux. Elle parle d'un veilleur solitaire, d'un veilleur silencieux, qui est un symbole. Elle dit qu'il est représenté par un arbre, l'arbre banyan, vous savez, qui pousse et qui dont les branches donc s'écartent du tronc principal et qui continue à s'élargir et puis qui va finalement s'enraciner dans d'autres parties. Donc on voit des arbres banyans dans certaines parties du monde, comme en Inde, et il y a on ne sait plus où est la racine principale. Donc elle symbolise ce grand initiateur, cet être merveilleux, comme étant cet arbre. Et on comprend bien ce que ça veut dire par rapport à l'humanité, par rapport au temps, par rapport au monde, que finalement ces êtres travaillent pour l'émancipation de l'humanité et non pas pour telle ou telle race ou telle préférence géographique. Et donc, il nous semble que ça fait partie des graines qui vont vraiment éveiller et accompagner l'humanité. Et il ne s'agit pas simplement de dire que tout est contenu dans tel ou tel ouvrage, il n'y a que les théosophes qui ne l'ont. Non, c'est contenu dans plein d'ouvrages, puisque la doctrine secrète y fait référence, et à chacun de retrouver donc les traces et de faire vivre et de vérifier l'existence de ces idées par sa propre observation et étude.
Alors maintenant, le dernier exposé sur le thème « La doctrine secrète n'a pas encore tout dit, mais montre la cohérence des religions et la base de la fraternité universelle. »
Donc, la doctrine secrète n'a pas encore tout dit, et Mme Blavatsky était la première à le savoir. Il faut se reporter un peu à cette fin du XIXe siècle. Mme Blavatsky, disciple de maître, qui était très conscient que l'humanité arrivait à la fin d'un cycle et allait aborder un autre, probablement avec plein de difficultés, ces maîtres, dont le chef pouvait voir l'avenir comme dans un livre ouvert, ces maîtres ont donc pensé qu'il fallait vraiment, semer des idées, apporter tout ce qui pouvait être proposé pour bien faire comprendre finalement la fraternité de toute l'humanité ou l'unité essentielle ou la convergence, si vous préférez, de toutes les religions. Alors, je pense que ce qui a été dit jusqu'à présent est assez clair, finalement, va dans le sens précisément d'expliquer ou de faire saisir la convergence de ces religions, dans le sens où, dans chaque religion, Mme Blavatsky, dans la doctrine secrète, a puisé tel ou tel symbole, telle ou telle idée, telle ou telle doctrine, qui ressemble, si on veut bien, à celle qui se trouve dans d'autres traditions. Donc, de ce côté, ça va. Maintenant, si vous voulez, du côté de la fraternité ou de l'unité fondamentale des religions, de toute l'humanité, ça aussi, je pense que ça a été assez clairement développé jusqu'à présent. Mais le problème, c'est, en se situant là, dans cette fin de 19e siècle, qu'est-ce que pouvait faire Mme Blavatsky? Alors, cette doctrine secrète, elle a mis un certain temps à être publiée. On voit que c'est le 20 octobre 88 que le premier volume est apparu, et c'est seulement à la fin de 88, presque au début de 89, que le deuxième volume était apparu. Alors, Madame Lavassie, évidemment, avait beaucoup d'espérance et avait aussi beaucoup de volonté de répandre le plus possible les idées fondamentales de la théosophie. Et déjà, dans un message qu'elle a écrit à ses amis, les théosophes américains, elle disait, maintenant, en ce qui concerne la doctrine secrète, eh bien, finalement, le manuscrit des trois premiers volumes est aujourd'hui prêt pour l'impression, et tout ce qui manque, finalement, c'est les problèmes de fond, les problèmes d'argent. Alors, les deux premiers volumes sont parus, mais pas le troisième. Alors, Lavassie, pour quelques raisons, est revenu sur l'idée de publier ce troisième volume. Donc là, c'est bien vrai que tout n'a pas été dit dans la doctrine secrète. Il manque des choses, et probablement que dans ce troisième volume, il y avait des choses que l'humanité n'était pas encore prête à recevoir et à assimiler. Donc, maintenant, qu'est-ce que pouvait faire Mme Lavassie dans cette situation? Comme on le voit aussi dans un des messages qu'elle a envoyé aux théosophes américains, elle cherchait par tous les moyens, en particulier dans les revues, dont la revue Lucifer, qui a commencé à être publiée un peu plus tôt, dans cette revue par exemple, tout ce qu'elle pouvait introduire comme enseignements fondamentaux en rapport précisément avec l'histoire de la théosophie, l'histoire de l'humanité, eh bien là, elle en profitait. Alors on voit par exemple dans son message de 88, en mentionnant la revue Lucifer, dans ses pages, mois après mois, je donne tout l'enseignement public qu'il est possible de fournir sur les doctrines théosophiques. Je poursuis ainsi le plus important de notre travail théologique. Donc, on comprend que, dépêchée dans le monde par ses maîtres, elle faisait tout son possible pour répandre ses idées ou ses doctrines théologiques et pour les faire comprendre, bien entendu. Alors, il s'est trouvé que, un peu avant la publication de cette doctrine secrète, eh bien, parmi ses amis de la loge de Londres, eh bien, s'était formé un cercle particulier qu'on a appelé la Blavatsky Lodge. Et dans cette Blavatsky Lodge, Madame Blavatsky était là au milieu de gens qui l'écoutaient, qui cherchaient à comprendre, qui lui posaient des questions. Et c'est ainsi que, après l'apparition de la doctrine secrète, eh bien, dans cette Blavatsky Lodge, il y a eu des réunions particulières consacré précisément à poser des questions sur des points délicats, des points difficiles, au moins du début de la doctrine secrète, et tout ça a donné lieu à la publication de livres intitulés Transactions of the Blavatsky Lodge, dans la même année. Donc, Blavatsky a cherché à faire que les théosophes actifs se rapprochent d'elle le plus possible, pour pouvoir entendre les questions et pour pouvoir répondre à ces questions de façon, encore une fois, à approfondir le message théologique. Bien, maintenant, cette doctrine secrète, 1600 pages, vous pouvez la distribuer à des milliers de personnes, c'est pas sûr que ces milliers de personnes vont lire, même plus qu'une fois, lire ces 1600 pages. Donc, il était urgent aussi de répandre les idées cardinales dans des revues, par exemple, ou dans des articles qui pouvaient être publiés. Et là, il ne faut pas oublier le fait que, entre la parution du deuxième volume et la mort de Mme Blavatsky, devait s'écouler moins de 3 ans. Alors, vous voyez, l'urgence, Mme Blavatsky savait très bien qu'elle n'avait plus longtemps à vivre. Vous sentez l'urgence qu'il y avait pour elle de parler, de répondre des idées, de répondre à des questions, etc., etc. Alors, quand on fait le bilan de tout ce qu'elle a pu écrire comme article, c'est complètement surprenant. Complètement surprenant. Rien que dans l'année 1889, elle a écrit, devinez combien, 86 articles dans des revues différentes. 86 articles. Et pas sur n'importe quoi, hein, sur l'air du temps et des choses pareilles. Bien sûr, c'est toujours sur des problèmes liés à des questions théosophiques. En 90, elle n'a eu plus beaucoup de temps à vivre, elle a encore publié 44 articles, et en 91, avant de mourir, 28. Au total, si vous comptez, depuis le moment où la doctrine secrète est parue et le moment où elle est morte, plus de 150 articles. Lisez-les, vous avez pour le reste de votre vie à vous occuper et à les approfondir. Donc on comprend que c'est très bien d'écrire et de publier un livre aussi complexe et aussi complet, aussi, si on peut dire, de la doctrine secrète, mais c'est une bonne chose aussi d'accompagner tout cela d'articles et de moyens de communiquer avec des échanges avec les personnes qui lisent. Qui lit ce livre et qui peut-être ne comprennent pas tout ce qui est dit au fil des pages et par conséquent ont besoin d'être là près de l'auteur pour lui poser des questions et en obtenir des réponses, bien entendu. Alors, bien sûr, Mme Levasky, on n'a jamais vu une personne aussi laborieuse et aussi liée à son travail. Peu de temps après la publication de la doctrine secrète, eh bien, il y a eu, comme vous savez sans doute, la publication de la clé de la théosophie. Et cela, moins de 6 mois, 3 ou 7 mois, si vous voulez, après la publication de la doctrine secrète, la clé de la théosophie. Et la clé de la théosophie, c'est vraiment une clé, c'est-à-dire qu'elle est écrite sur la base de l'enseignement de la doctrine secrète, bien entendu, mais avec des approches. Des approches beaucoup plus ouvertes, si vous voulez, à la disposition de l'intelligence des gens, éditeurs, des gens qui pouvaient lire cette clé de la théologie. Bien entendu, l'idéal, c'était de se référer à la doctrine secrète le plus possible, mais si on n'avait pas la doctrine secrète, on avait au moins l'essentiel pour s'expliquer ce que l'homme fait sur la terre, les liens, les lois qui règnent dans cet univers, etc., etc., et finalement, ce à quoi l'homme est amené, ce qui est attendu de lui, en quelque sorte, par les grandes lois de l'univers. Donc c'est un livre à la portée, beaucoup plus à la portée de tous que cette clé de la théologie. Hein? Maintenant, c'est pas tout, peu de temps après, imaginez dans cette même année, en fin septembre 89, eh bien voilà, c'est la voix du silence. La voix du silence, c'est, on pourrait presque dire, le testament spirituel de Madame Levasky, où là, elle s'adresse à ceux qui vont entendre et qui vont vouloir vivre une éthique, vivre la vie théosophique, de façon non seulement à éviter toutes les erreurs possibles, mais aussi marcher sur le sentier intérieur, le sentier de l'éveil intérieur, et bien entendu se rapprocher le plus possible de l'influence des maîtres, entrer dans leur cercle en quelque sorte. Alors toutes ces choses-là sont assez remarquables quand on pense le peu de temps que Mme Levasky avait à sa disposition pour faire toutes ces choses-là, pour lire toutes ces choses-là. Alors maintenant, si on regarde un peu dans ces messages qu'elle a encore une fois, ça aussi, ça fait partie des textes écrits dans lesquels Mme Levasky a laissé des informations, a laissé en quelque sorte sa volonté, si l'on peut dire. Quand elle a écrit aux théosophes américains qui se réunissaient en congrès, eh bien, c'est très très intéressant de voir finalement quel est le contenu de ce message. Par exemple, là, on voit en 88, avant la publication de la doctrine secrète, elle écrit « Il en est d'autres parmi vous qui réalisent intuitivement qu'il est d'une importance tout à fait vitale pour la société d'admettre la pure théosophie, la philosophie de l'explication rationnelle des choses. Ça, il faut garder ça quand on lit tous les livres théologiques et qu'on essaie de se... On se demande qu'est-ce qu'on va faire de tout cela. L'explication rationnelle des choses face à tous les problèmes de la vie extérieure, de la vie intérieure en particulier. Bon, étant donné que cette explication peut seule fournir le flambeau nécessaire pour guider l'humanité sur son vrai sentier. La Bhavati était très très consciente qu'on allait entrer dans une ère beaucoup plus difficile, probablement au cours du XXe siècle, comme vous le savez sans doute. Bon, elle a parlé dans un article, que beaucoup de gens ont lu bien entendu, que l'on allait entrer dans une ère de désenchantement. Vous avez entendu ça quelque part ? Vers 1912, il y a un certain Max Weber, qui est très bien connu, qui a écrit précisément un article sur le désenchantement du monde. Même le récit le savait. Et face à cette montée de ce désenchantement, bien entendu, elle a fait tout ce qu'elle a pu pour préparer les hommes et les femmes qui allaient entrer dans ce XXe siècle, les préparer pour soutenir en quelque sorte le moral de toute l'humanité et apporter précisément les informations nécessaires pour se débarrasser de toutes ces idées noires, de tous ces obstacles à la vie extérieure et à la vie intérieure. Maintenant, on voit aussi en 89, elle l'écrivait, voici pourquoi l'éthique de la théologie est encore plus nécessaire à l'humanité que les aspects scientifiques, des faits psychiques, de la nature et de l'homme, etc. Donc il s'agissait d'ouvrir le cœur le plus possible, et c'est bien ce qu'elle dit, la fonction, encore une fois, dans son message de 88, elle dit la fonction des théologues est d'ouvrir le cœur et l'entendement des hommes à la charité, à la justice, à la générosité, attributs qui appartiennent spécifiquement au règne humain et sont naturels à l'homme quand il a développé les qualités d'un être humain. Alors, elle dit aussi, la théosophie apprend à l'homme animal à devenir un homme humain. Quand les êtres auront appris à penser et à sentir comme les véritables êtres humains devraient sentir et penser, ils agiront alors avec humanité et tous accompliront spontanément des œuvres de charité, de justice et de générosité. C'est beau à lire, mais on comprend très très bien la logique de tout ce discours. Donc, elle va encore plus loin dans un autre message qu'elle envoie. Elle dit « L'essence de la théosophie consiste dans l'harmonisation parfaite du divin et de l'humain dans l'homme. » On a vu tout à l'heure que, évidemment, cette présence du divin dans l'homme, c'est un des aspects essentiels de l'enseignement de la théosophie, déjà dans la doctrine secrète et ensuite, par exemple, dans les transactions. Dans les transactions de la Bhavati Lodge, on voit comment effectivement l'homme est là, adombré en quelque sorte, ou sous l'influence d'un maître intérieur, un délégué de Prométhée, si l'on peut dire, et que ce maître intérieur est maintenu dans le sommeil par toutes les démarches égoïstes, violentes, etc., etc., et que par conséquent, la vie intérieure consistera à libérer ce prisonnier. Donc, celui qui enseigne la théosophie prêche l'évangile de la bonne volonté, et l'inverse est vrai aussi, qui prêche l'évangile de la bonne volonté enseigne la théosophie. Alors tout cela, elle a essayé de se faire entendre de la part par tous les travailleurs qui étaient autour d'elle, et lui en avait des très très sérieux, très engagés, etc. Et là, c'était le moment, évidemment, c'était le moment de profiter de l'extension extraordinaire de la société théosophique pour élargir en quelque sorte le champ d'activité et ainsi de s'ouvrir, de faire une ouverture entre l'Orient et l'Occident. L'Orient et l'Occident, elle dit, c'est l'une des tâches de la société de théosophique de rapprocher l'Orient et l'Occident afin que chacun puisse fournir à l'autre les qualités qui lui font défaut, etc. Et on sait bien que Dieu l'a accompagné dans ce sens-là, par exemple en publiant en 1890 la Bhagavad Gita comme nous le savons. Alors tout cela, en quelque sorte, était un message d'appel, on pourrait presque dire un clairon, qui essaie de réveiller les gens et les amener à se dresser, à se lever et participer en somme à toute cette œuvre de la société théosophique, qui va dans le sens effectivement du rapprochement de tous les êtres, de la convergence de toutes les religions, etc. etc. Alors, monsieur, madame Blavatsky, qui était elle-même une disciple très avancée de maître de sagesse, qu'elle avait connue en Orient, cette disposition l'avait, avec l'incitation de William Conjure, l'avait poussée à créer une section ésotérique. Une question ésotérique, pourquoi faire? Pour adorer quelque chose, pour méditer sur l'absolu, des choses comme ça. Bon, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur le sujet, mais il est très clair qu'il s'agissait pour Mme Blavatsky de réunir des disciples engagés et prêts à l'accompagner, prêts à la soutenir dans toutes les situations, bien entendu, et prêts aussi à approfondir le plus possible l'enseignement de la théosophie pour pouvoir mieux le faire comprendre, pour pouvoir mieux le répandre parmi les autres. Et c'est ainsi que, en 89, par exemple, elle dit, encore une fois dans un message, « Comme beaucoup d'entre vous le savent, nous avons formé la section ésotérique. Entre autres serments, fallait qu'il prête serment, ces membres ont fait celui de travailler pour la théosophie sous ma direction. » Par elle, nous avons essayé notamment d'assurer une certaine solidarité dans notre travail commun, de former un corps solide pour pouvoir résister aux attaques du monde extérieur, etc. etc. On comprend, d'ailleurs, évidemment, Mme Blavatsky faisait partie d'un corps de disciples dirigé ou sous l'influence de ses propres maîtres. On comprend bien qu'il fallait qu'elle crée une espèce de familles très très unies au sein de cette société théosophique où les gens venaient de tous les côtés, ne pouvaient pas s'entendre du tout, se tirer dans les pattes, etc. Il s'agissait de créer un foyer, une famille, d'être vraiment unis dans leur démarche, mais aussi prêts à sacrifier énormément de choses pour répandre, pour soutenir ce mouvement théosophique. Et d'ailleurs, on voit en 89, elle dit, comme beaucoup d'entre vous le savent, nous avons formé la section ésotérique. Entre autres serments, ses membres ont fait celui de travailler pour la théosophie sous ma direction. Par elle, nous avons essayé notamment d'assurer une certaine solidarité dans notre travail commun, de former un corps solide, etc. Et finalement, les résultats ont été favorables, puisqu'elle disait en 90, donc moins d'un an avant de mourir, une bonne partie de ces bons résultats est due à la force nouvelle et surtout à l'accroissement de l'esprit de solidarité que l'organisation de la section ésotérique a permis d'infuser à la société théosophique. Aux membres de cette section, je dis, voyez et rendez-vous compte des grands résultats qui peuvent être atteints par ceux qui prennent réellement leur tâche au sérieux et s'unissent d'une manière altruiste pour travailler pour l'humanité. Il faudra lire encore tout ce qu'elle dit à ce sujet, bien sûr, bien évidemment, mais il faut passer un peu plus loin. Là, avant de terminer, en quelque sorte, toujours en écrivant tous ces articles, etc., encore une fois, elle a essayé de réunir autour d'elle un corps de... Il n'y a pas de soldats. Un corps de volontaires prêts à répondre à tous ses appels et bien entendu participer à son travail. La théosophie est la fraternité universelle, le fondement même, comme aussi la clé de voûte de tous les mouvements visant à l'amélioration de notre condition. Ce que j'ai dit l'an passé est aussi vrai aujourd'hui. L'éthique de la théosophie est plus d'importance que toutes les divulgations de lois et de faits psychiques, etc. L'ego qui se réincarne. Extérieurement, nous sommes les créatures d'un seul jour. Intérieurement, nous sommes éternels. Apprenez donc bien les doctrines de karma et de réincarnation, enseignez, pratiquez, promulguez le système de vie et de pensée qui seul peut sauver les races futures. Bon, bien sûr, il fallait se rendre compte que ce désenchantement du monde n'arriverait pas par hasard. Il fallait se rendre compte, effectivement, que tout était prêt, en quelque sorte, pour cet effondrement de l'idéal spirituel que les hommes pouvaient avoir. La tendance de la civilisation moderne est une réaction dans le sens de l'animalité. Vous voyez ce qu'elle a dit dans les années 90, même pas. C'est, on dirait qu'elle décrit le XXe siècle, en puissant au développement des qualités qui, dans la vie, mènent au succès l'homme considéré comme un animal dans sa lutte pour l'existence animale. La théosophie cherche à développer dans l'homme la nature humaine en sus de l'animal et en sacrifiant l'excès d'animalité que la vie moderne et les enseignements matérialistes ont amené à un degré qui est anormal pour l'être humain. Les hommes ne peuvent tous être des occultistes, mais tous peuvent être des théosophes.